talmudique. Cher Oscar, tu m'as écrit une lettre charmante qui demandait soit une réponse rapide, soit pas de réponse du tout. Voilà une partie de ma réponse. Il me semble qu'on ne devrait lire que les livres qui vous mordent et vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? Pour qu'il nous rende heureux comme tu l'écris, mon Dieu, nous serions tous aussi heureux si nous n'avions pas de livres, et des livres qui nous rendent heureux, nous pourrions à la rigueur en écrire nous-mêmes. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée qui est en nous, voilà ce que je crois. Quel magnifique éloge du livre et de la puissance du roman nous offre ici Kafka dans cette lettre à Oscar Pollack datée de janvier 1904. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée qui est en nous, voilà ce que je crois. Le roman nous aide à façonner et refaçonner infiniment le monde. N'est-ce pas d'ailleurs le sens du mot fiction qui vient du latin fingere et qui signifie modeler? Modeler la matière des mots et du langage comme de l'argile et en faire un golem, une créature anglaise, comme j'aime le dire pour faire sourire, en ajoutant immédiatement avec sérieux que la fiction, cette invention continue du monde, est ce qui nous protège contre la destruction de notre humanité par cette remise en question permanente, par cette nouveauté et singularité surprenante que seul chaque roman apporte avec lui. Puissance du roman, qui est d'abord la puissance du langage, la puissance des mots qui ouvre à l'intérieur de nous des espaces inconnus ou inexplorés, créant littéralement des mondes et nous recréant à travers ces mondes nouveaux. Va et vient dynamique entre l'œuvre et le monde, où chacun nourrit l'autre et lui donne plus de consistance, plus d'humanité. Formidable travail de l'écrivain qui sait à chaque fois réinventer la langue, qui sait souligner les nuances, faire jouer les tonalités, déployer par les différents points de vue de ses personnages le chatoiement du monde, qui sait donner à chaque mot sa densité, sa vibration, sa libration, c'est-à-dire qui sait que les mots, les histoires et les livres ont du poids. Poids du monde que la littérature offre avec légèreté et beauté, rappelant que la raison esthétique qu'apporte le roman et les œuvres d'art n'est pas un à côté de la rationalité, mais l'un de ses éléments constitutifs les plus essentiels et les plus incontournables. Même si chaque romancier apporte un nouveau langage et souvent un nouveau style, il y a dans cette république des lettres certains écrivains qui le font différemment, mais vraiment différemment. Je pense à l'un d'entre eux, un très grand parmi les très grands. C'était au XXe siècle, c'était Albert Cohen. Philippe Zard, bonjour.
Bonjour.
Philippe Zard, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes, docteur en littérature comparée et maître de conférences à l'Université de Paris-10-Nanterre. On vous doit de très nombreux articles et ouvrages, dont « La fiction de l'Occident », Thomas Mann, Franz Kafka, Albert Cohen, en 99, de « Shylock à Sinoc », essai sur les judaïsmes apocryphes en 2018, pour lequel nous avions eu le plaisir de vous recevoir dans Talmudic. Vous revenez aujourd'hui avec Albert Cohen, Solal et les Solals, suivi de Combat de l'homme, un très impressionnant volume dans la collection Quarto, aux éditions Gallimard, pas moins de 1664 pages. Le livre qui sort ces jours-ci reprend les quatre romans d'Albert Cohen, Solal, Manche-Clou, Les Valeureux et Belle du Seigneur. Une édition accompagnée d'un appareil critique d'une richesse impressionnante, un texte d'introduction, un dossier illustré de photos et de documents d'archives sur la vie et l'œuvre de Cohen et une présentation pour chacun des quatre romans. Un épais volume qui se termine par deux textes, un court texte de Cohen intitulé « Combat de l'homme » et les notes d'un journal tenu par Anne-Marie Boissonnas, Tillier, à propos de Belle du Seigneur, nous en reparlerons. Pourquoi, Philippe Zard, fallait-il proposer cette nouvelle édition alors que les œuvres complètes, et non seulement ces quatre romans, ont déjà été publiées dans les deux volumes de la Pléiade en 86 et 93? Pensez-vous que, malgré cette notoriété, Albert Cohen reste trop peu connu ou trop peu lu ou mal lu? Questions qui sont l'occasion, bien sûr, de nous rappeler tout d'abord qui est Albert Cohen.
Alors, je vais essayer, en effet, de répondre à ces deux questions en même temps, car elles sont liées, évidemment. Albert Cohen, fiche signalétique, très rapide, un peu caricaturale, je vous prie de m'excuser. Albert Cohen est né à Corfou en 1895, débarqué à 5 ans à Marseille, où il fera des études secondaires et où il apprendra le français, avant de partir pour la Suisse, dont il obtiendra la nationalité et où il résidera pour l'essentiel. Il a publié en 1930 un premier roman qui a eu un certain succès, même un grand succès, et qui racontait, qui mettait déjà en scène son héros, celui qui va l'accompagner toute sa vie, Solal, qui racontait l'ascension, la chute et la résurrection de cet échappé du ghetto, échappé du ghetto de Céphalonie, en Grèce, une île grecque, et menant l'aventure occidentale, mariage et carrière. Donc, grand roman qui s'achève sur une résurrection en majesté du personnage, totalement invraisemblable, mais qui nous bluffe, littéralement. Et pourtant, il met 8 ans à écrire son deuxième roman, qui en est la suite, à une époque où on avait presque déjà oublier le premier. Et ce deuxième roman n'est en lui-même qu'un extrait du grand roman qu'il a en vue et qu'il a en partie écrit. À la fin de ce roman, qui s'appelle Manche-Clou, et qui reprend les mêmes personnages, avec cette fois-ci une dominante plus burlesque, à la fin de ce roman, Solal est caché dans la chambre d'Ariane, qu'il aime et qui ne le connaît pas. Et il est sur le point de se dévoiler. Le lecteur qui a lu Manche-Clou en 1938 devra attendre 30 ans pour que Solal sorte de la chambre et pour le surprendre en train d'y revenir, d'ailleurs. C'est le plus long suspense de l'histoire du roman amoureux, du roman sentimental. 1968, Belle du Seigneur paraît, et on a déjà largement oublié et Solal et Manche-Clou. Et, pour couronner le tout, en 1969, paraît un quatrième volume, une sorte d'appendice qui appartient au même univers romanesque et qui s'appelle Les Valeureux. Autrement dit, voilà un écrivain qui n'a publié que 4 romans dans toute sa vie, mais qui a mis 40 ans pour les publier. Et c'est pourtant une seule et même histoire, un seul et même projet, une tétralogie. Et justement, pour répondre à votre question, oui, cette histoire singulière a fait qu'on a lu Cohen dans le désordre, de manière partielle, imparfaite, incomplète. Et beaucoup de lecteurs n'avaient lu que Belle du Seigneur, n'ont encore lu que Belle du Seigneur, parfois Manche-Clou, parfois Solal, un peu au hasard. Et l'édition de la Pléiade, dont vous avez parlé justement, qui est importante dans l'histoire de l'édition de Cohen, a quand même, d'une certaine manière, aggravé le malentendu. Pourquoi ? Parce que Belle du Seigneur a été publiée séparément, absolument séparément, comme une sorte de météorite isolée, tombée du ciel. Et tout le reste de l'œuvre, roman, essai, poésie, théâtre, a été publié en vrac dans un second volume. Ça ne facilitait pas les choses, on pourrait même dire qu'on n'y comprenait plus rien. Donc, c'était cela le projet de cette édition Quarto, rendre son unité, la faire véritablement percevoir par le lecteur, l'insérer dans son contexte, littéraire, historique, et puis, c'est ce que j'ai essayé de faire, de manière, j'espère, pas trop pédantesque, accompagner la lecture de copieuses préfaces et d'abondantes notes de bas de page. Je crois qu'il y en a à peu près 1200, j'espère qu'elles ne pèsent pas trop sur l'ensemble du volume. Alors, dernière précision qui est un facteur de complication et même de malentendu. Belle du Seigneur paraît en 1968, mais c'est une parution à contre-temps, car le roman a été presque entièrement conçu et en grande partie rédigé à la fin des années 30. Et il s'en est fallu de peu pour qu'un roman intitulé « Belle du Seigneur » ne paraisse en 1939 ou en 1940. De peu, c'est-à-dire quelques détails, la volonté d'un éditeur un peu impatient et une guerre mondiale. Donc, ce volume que nous lisons en 1968, il n'est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre que celui qui aurait pu voir le jour si l'histoire en avait décidé autrement, en 1939 ou en 1940.
Vous voulez dire que si Belle du Seigneur avait paru en 1939 et non en 1968, et si l'ensemble de la fresque romanesque avait été publiée d'un seul tenant, comme vous venez de nous l'expliquer, l'histoire du roman français se fût écrite de manière sensiblement différente?
Assurément, parce que si Cohen avait achevé son œuvre romanesque comme il était sur le point de le faire en 1939, publié ses 2000 pages de romans à cette époque, eh bien, il aurait eu toute sa place dans l'histoire littéraire des années 30. Et les petits Français des années 60 et 70 auraient vu apparaître Albert Cohen dans le Lagarde et Michard de ces années-là, aux côtés d'André Malraux, de Saint-Exupéry, de Martin Dugard et de François Mauriac. Au lieu de quoi, eh bien, la dispersion chronologique fait que Cohen est presque insituable dans l'histoire littéraire. Il a disparu des radars académiques et scolaires pendant très longtemps. Et on le redécouvre depuis une vingtaine d'années. Et de ce fait, la parution de Belle du Seigneur est marquée par un certain anachronisme. C'est comme si une certaine modernité des années 30 faisait soudainement irruption dans la France de la fin des années 60, dans un paysage littéraire qui ne l'attendait absolument pas. Et d'ailleurs, le prix de l'Académie française a un peu aggravé cet effet d'anachronisme, parce que généralement, il est plutôt associé au roman traditionnel. Or, Belle du Seigneur n'est ni assez traditionnel pour que les tenants du roman traditionnel y reconnaissent leur petit, ni assez moderne aux yeux de ceux qui, dans les années 60, donnaient le « là » de la modernité littéraire, les Butor, les Robes Grillet, les Ricardou, les Claude Simon. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont pu se sentir visés quand le romancier prête à l'insignifiant Adrien Deume le projet, je cite, « d'une œuvre assez sui generis, sans événement et en quelque sorte sans personnage ». On se doute bien quelle est la cible de Cohen dans ces années-là. Ça ne lui a pas fait que des amis, on s'en doute.
Alors, commentant l'accueil critique élogieux de Solal, le premier roman de Cohen dont vous venez de parler aussi, paru en 1930, vous écrivez « L'éloge du roman s'accompagne souvent en 1930 d'une forme d'étonnement, voire de stupeur, sinon d'embarras. Un roman, certes, mais que ses admirateurs ne semblent pouvoir appréhender que par analogie et approximation. Les qualificatifs se bousculent. Fantaisiste, étrange, cocasse, touffu, frénétique, hardi, truculent, extravagant, hallucinant, chaotique, primitif, barbare, élémentaire, sauvage. Enfin, ils ont mangé le dictionnaire. Les genres et les registres s'entrechoquent. Épique, comique, tragique, théâtral, lyrique, satirique, merveilleux. Et les références pleuvent. Homer, Shakespeare, Rabelais, Dickens, Hugo, Léon Daudet, Crevel, Istrati, Zangville, Peggy, Maupassant, Balzac. Devant un tel feu d'artifice lexical et ce flot de références, je crois que nous avons besoin de votre aide, Philippe Zarn, pour comprendre quel bouleversement Albert Cohen apporte dans l'écriture romanesque. Dit autrement, quel est le secret de son écriture? Je sais qu'il faudrait une bibliothèque entière pour répondre à cette question, mais je pense toujours à Hillel, à qui on demandait d'expliquer le judaïsme sur un pied, à Al-Regel Achat, jeu de mots avec le latin regula, pour dire avec une seule règle, Philippe Zarn.
Alors, à défaut d'une règle, je mettrai en évidence trois principes. Le premier, avoir un sujet et un seul. Cohen est véritablement l'homme d'un seul roman, parce qu'il est l'homme d'un seul sujet, et je dirais presque d'une unique obsession, d'un scénario unique, que j'ai appelé, excusez la longueur du terme, le scénario érotico-théologico-politique. L'aventure sociale et amoureuse d'un héros juif en Occident, son ascension, sa déchéance, et la revenance du refoulé juif, qui vient constamment contrarier ses desseins. Ce scénario se réédite de cela à La Belle du Seigneur. C'est l'unique sujet traité sous de multiples formes. Et à partir du moment où on dispose de cette colonne vertébrale ou de cet axe fantasmatique, on peut se permettre toutes les digressions que l'on veut. On peut s'égarer, passer des centaines de pages dans un ghetto ou dans un bureau de la Société des Nations ou à la préparation d'un dîner. On ne perd jamais de vue la route. Ça, c'est le premier principe.
Rappelez quand même de manière plus précise et insister sur cette triade fondamentale cohenienne, Philippe Zarn.
Alors, oui, trois univers, en gros. Le ghetto céphalonien, l'île grecque, qui est la matrice, littéralement, de l'univers imaginaire de Cohen. L'univers européen, qui lui-même se dissocie, je dirais, entre un centre politique, qui est la Société des Nations, et le domaine du privé, la maison d'hommes et bientôt la maison des amants. Et entre ces différents univers, Solal, qui constamment passe de l'un à l'autre. Alors un seul sujet, deuxième principe, jouer avec virtuosité, et disons-le, un culot monstrueux, de sa bipolarité psychologique, culturelle, mentale, poétique. C'est-à-dire faire tenir dans un même roman des personnages que rien ne devrait rassembler. Normalement, on pourrait dire que Mancheclou, Saltiel, ne devraient pas fréquenter le même roman qu'Adrien Deume ou Ariane. Les faire tenir ensemble, c'est une gageure, une audace, y compris une audace poétique. Et pourtant, c'est un peu comme si vous mettiez Buster Keaton et Alain René dans le même film. Et pourtant, ça tourne. Et puis, troisième principe, créer des personnages, les aimer passionnément. Le romancier est littéralement amoureux de ses personnages, même quand il les maltraite. Il est Ariane dans son bain, il est Adrien dans son bureau, dans son ascenseur, il est Solal, bien sûr. Il aime Mangeclou, il aime Saltiel et Salomon. Il sait leur donner une présence et surtout une parole unique. La parole de Mangeclou, celle de Solal, celle d'Ariane, celle de Mariette, est toujours singulière. Et c'est cette capacité de créer des personnages qui, je crois, est aussi un phénomène marquant de la lecture de Cohen. Quand on a lu Cohen, on vit avec ces personnages, même des années après. On a tous eu, on a tous été amoureux d'Ariane, on a tous vécu avec Ariane ou rigolé avec Mangeclou. Et peu de romanciers sont capables de créer des univers aussi prégnants. Et c'est cette sympathie aussi qui, je crois, est un principe poétique majeur.
Avec sa gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et ses cheveux aux quatre vents. Avec ses yeux tout délavés, qui lui donnent l'air de rêver, mais qui ne rêve plus souvent. Avec ses mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé dans le jardin. Avec sa bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire une histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque...
J'ai tenu à faire entendre ce titre de Moustaki chanté avec Zazie, car elle lit beaucoup du monde de Cohen. Tout comme Cohen, les parents de Moustaki sont nés à Corfou avant de partir à Alexandrie. Même déracinement, même multilinguisme, même passion pour les mots et la littérature. Et à l'instar de Bello ou Roth, qui ont créé un anglais teinté de yiddish, en lisant Cohen, on a l'impression de lire un français écrit aussi avec une ou avec d'autres langues. Et je crois qu'il est aussi très important de souligner la question de l'oralité chez Cohen, Philippe Zahr. Cette langue de Cohen, c'est quoi? C'est du français, mais c'est quoi exactement?
Alors, peut-être pour sourire d'abord, ce passage du livre de ma mère, qui est un souvenir d'enfance donc de Cohen. Je rappelle que Cohen ne parlait pas le français, enfin ce n'était pas sa langue maternelle, il l'a appris un peu à son arrivée en France. Et voici ce qu'il disait à propos de ses camarades d'école. Je me rappelle, j'étais un écolier pourvu d'un accent si oriental que mes camarades du lycée se gossaient lorsque je faisais d'ambitieux projets de baccalauréat et prophétisaient que jamais je ne pourrais écrire et parler le français comme eux. Ils avaient raison d'ailleurs. Bernadet, Miron, Louraille, soudain, leurs noms prestigieux me reviennent. Bon, petite vacherie de la fin fait sourire, évidemment, mais le « ils avaient raison d'ailleurs » dit tout. C'est-à-dire que, en effet, l'œuvre de Cohen est écrite en français, et même dans un français somptueux. Mais il sonne comme s'il venait d'ailleurs, ou comme si, en tout cas, il était hanté, par quelque chose d'autre, par une altérité, peut-être pas exactement une langue étrangère, encore que. On pourrait se rapporter à Proust aussi, hein, qui disait à propos des chefs-d'œuvre que les grands livres semblent avoir été écrits dans une langue étrangère. Et je crois que, en effet, si l'on est un créateur, c'est qu'on est aussi toujours un créateur de phrases. Alors, Barthes avait une belle formule. Il disait qu'un écrivain était un pense-phrase. Et il ajoutait, c'est-à-dire pas tout à fait un penseur et pas tout à fait un phraseur. Cohen est assurément un pense-phrase, c'est-à-dire qu'il pense à travers des phrases, une syntaxe, un rythme. Et ce rythme, il est vrai, transparaît aussi dans ce que l'on a appelé l'oralité de son œuvre. Et ce n'est pas seulement une manière de parler. Cohen disait que tous ses livres avaient été écrits par amour ou pour l'amour, l'amour d'une femme, ou en tout cas, ils étaient dictés à une femme. C'est vrai de Solal, qui a été dicté à sa compagne. C'est vrai de la première version de Belle du Seigneur, qui a été dictée à une secrétaire. Et de l'ultime version de Belle du Seigneur, qui a été dictée à sa femme. Donc trois femmes ont littéralement accompagné l'écriture de son roman. Et au point qu'on pourrait parler autant de création que de procréation. Il y a quelque chose comme une genèse, comme une connaissance du livre, à travers ce que l'on pourrait appeler une incroyable négociation, surtout pour cet écrivain qui a été souvent taxé, parfois à juste titre, soyons honnêtes, de misogynie, une incroyable négociation entre la part masculine et la part féminine de la création. Une parole masculine adressée à une femme est sans cesse reprise. Alors cette oralité, elle transparaît dans le rythme, mais aussi dans ce qu'on pourrait appeler le caractère abondant, profus, généreux de la prose cohénienne, l'amour d'en remettre et d'en remettre constamment, il y a quelque chose qui est de l'ordre du don. Il n'était assurément pas de ceux qui, comme Camus disait, que l'art consiste à dire moins. Il était de ceux qui pensaient au contraire, certainement, qu'il fallait dire bien, mais qu'il fallait dire beaucoup.
Alors ce qui marque le lecteur dès les premières lignes de chacun de ses romans et dans ce beaucoup que vous évoquez à l'instant, c'est l'humour. On ne peut s'empêcher de le rapprocher de Rabelais. Quelle est la place de l'humour dans cette œuvre immense où le tragique n'est pas absent, Philippe Zarre ?
Alors, en effet, l'humour est presque à lui seul, on l'oublie parfois, la moitié de l'inspiration cohénienne. L'humour, c'est d'abord l'univers des valeureux, essentiellement, et puis c'est aussi, à l'intérieur même des romans dits sérieux, comme Solal et Belle du Seigneur, un certain nombre de passages littéralement désopilants. Alors, pourquoi l'humour ? On pourrait citer des épisodes entiers, par exemple cet épisode dans Manche-Clou, où une petite lionne s'est échappée du zoo et où des juifs paniqués se mettent à circuler dans des cages pour échapper à la férocité de la bête. On pourrait songer, bien sûr, à la visite canularesque de Scipion, le Marseillais, le Provençal, et du petit Jérémy échappé d'un ghetto lituanien à la SDN. Tous ces passages-là font littéralement éclater de rire. Alors, Pourquoi cet humour et qu'est-ce qu'il traduit ? Je dirais que pour ce qui concerne Manche-Clou et l'univers des valeureux, l'humour est d'abord une farce. C'est l'univers des corps, c'est l'univers du bas corporel, comme dirait Bakhtine, et c'est, si l'on veut, le remède à notre tentation de toujours nous évader dans des idéalités séraphiques, dans des idéalisations, dans des rêves éthérés, nous ramener sur terre, en quelque sorte, et nous ramener aussi à notre essence charnelle. Et rire de cela, c'est aussi une mesure d'utilité publique, justement, contre les délires la spiritualité, d'une spiritualité mal comprise, en tout cas, d'une spiritualité qui ferait l'économie de notre nature charnelle. Donc ça, c'est bien sûr un élément fort. L'humour est aussi, je crois, profondément chez Cohen, une éthique. Il consiste d'abord dans un amour profond de l'humanité, et Cohen ne se cache pas de jouer constamment sur l'homophonie entre humour et amour. Et on pourrait même dire, on pourrait même ajouter parfois l'humus. Il y a un humus, un terreau sur le, d'humanité, de sensibilité, sur lequel naît cet humour-là. Et il y a aussi, donc, au-delà de cet amour, une sorte de sagesse qui consiste un peu dans la filiation des grands moralistes à ramener l'homme sur terre et à déjouer aussi les fausses grandeurs, les grandeurs d'établissement, comme dirait Pascal. Et à considérer que la hiérarchie sociale des valeurs ne correspond pas, tout simplement, à la hiérarchie morale. Et Judith Kaufmann avait une formule tout à fait heureuse pour dire que si Mangeclou était le roi de la dérision, Solal, quand il était au sommet de sa carrière, savait qu'il n'était qu'un roi dérisoire. Et finalement, c'est derrière cet humour, il y a aussi la parole du Coëlette, la parole de vanité des vanités, qui nous ramène constamment sur terre.
Alors vous avez parlé de l'humour et de son corollaire, l'amour. Il y a de très nombreux thèmes abordés dans l'œuvre de Cohen, mais dans Solal et les Solal, il y a d'abord, et je ne sais pas si le mot d'abord convient le mieux, la question des femmes et de l'amour. Dans votre étude sur Cohen et Cervantes, vous écrivez que Cohen se plaît à repérer, jusque dans les replis de l'intime, la soumission de l'expérience aux lois perverses et fascinantes de la fiction, fascinante autant que perverse, car l'ultime paradoxe, et non le moins significatif, de l'entreprise de Cohen, comme Cervantes ressuscitant par son roman un genre littéraire qu'il pourfend et que beaucoup de spécialistes tiennent pour moribond à l'époque où paraît l'œuvre, l'écrivain qui en 1968 publie Belle du Seigneur redonne vie par ce thème anachronique à un mythe qu'il entend détruire et qui écrit un grand roman de la passion. On n'en finit pas si aisément avec les sortilèges du romanesque. Voilà, Philippe Zarr, une formulation qui rend immédiatement curieux.
Alors, on pourrait dire qu'il y a deux manières de ne pas comprendre Belle du Seigneur. C'est de croire que c'est un roman d'amour ou de croire que ce n'est pas un roman d'amour. Donc c'est un faux débat, évidemment, parce que s'il est une sagesse du roman, c'est de pouvoir dire tout à la fois les deux vérités ensemble, comme on dit aussi dans le Talmud, l'un et l'autre sont paroles de l'Éternel. Croire que c'est un roman d'amour, c'est bien sûr faire un contresens au regard de ce qui apparaît comme une intention manifeste de Cohen, c'est-à-dire celle qui est de déjouer la mythologie amoureuse, les mensonges à soi-même, et notamment, il s'agit pour Cohen de mettre en valeur les soubassements sociaux, physiologique même, de l'amour, dire parfois même l'indignité éthique de certaines aventures amoureuses. C'est aussi, et tout Belle du Seigneur est là, démontrer que l'exaltation charnelle des débuts de l'amour ne saurait se soutenir toute une vie si elle ne se convertit en tendresse et en amitié. Et Cohen a beau jeu, là, dans cette perspective, d'opposer le saint amour conjugal de sa vertueuse mère aux passions échevelées des Occidentaux. Mais si l'on s'en tient là, on manque aussi la puissance et les résonances du texte. Car Belle du Seigneur est aussi le récit de cette expérience inoubliable de l'extase amoureuse, célébrée dans des pages qui sont une version profane, mais majestueuse du Cantique des Cantiques. Et Belle du Seigneur est plus encore le récit d'une rencontre manquée, d'un fiasco éthique, dans lequel les responsabilités sont à tout le moins partagées. Le vrai instigateur du fiasco, ce n'est pas tant Ariane et sa mythologie, que Solal, celui qui rêve d'être religieusement aimé et qui, dans sa peur panique de déchoir en tant qu'amant, terrifié par cette déchéance, eh bien, va devenir le prêtre fanatique d'une religion de l'amour à laquelle il ne croit plus et qui va entraîner Ariane dans son naufrage. Il faut sentir aussi ce fiasco-là. Et honnêtement, qui voudrait marier Solal aux filles édentées de Mangeclou ou renvoyer Ariane chez son Adrien d'Eume? Les tableaux que le romancier propose du mariage sont aussi calamiteux à leur manière que le beau naufrage des amants. Alors, je le dirais autrement, très rapidement. Il y a au fond, chez Cohen, deux instances qui se combattent. Il disait que le génie était d'avoir le cœur plein d'amour et l'œil méchant. Je le dirais de la manière suivante. Il y a d'une part la censure prophétique et l'ouverture romanesque. D'une part, la juridiction morale qui juge du bien et du mal. D'autre part, une jurisprudence esthétique fondée sur la compréhension infinie de l'autre, et presque une forme de tolérance ou de permissivité qui incline à comprendre et à se mettre à la place d'autrui plutôt que de le condamner, bref, à entrer dans ses raisons.
Merci Philippe Zard pour ce dialogue, pour ces commentaires où l'on comprend votre passion pour cet homme et pour son œuvre, passion que vous partagez avec enthousiasme. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé aujourd'hui, Albert Cohen, Solal et les Solals, collection Quarto aux éditions Gallimard, 1664 pages de bonheur jubilatoire. Merci encore Philippe Zard.
Merci à vous.
C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Stéphane Desmonts, à la réalisation Rafik Zénine. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudic, Koltouv, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Thank you.